Qu'est-ce qui vous a mené ici, chasseur de trésors?
Bienvenue dans Cadenas Directionnels et Lampe UV, Jessica Leb avec vous jusqu'à 20h30, votre rendez-vous estival consacré aux jeux d'évasion, une industrie dont on vous parle depuis le début de l'été, toujours avec mon acolyte Marc Raymond. Bonjour Marc.
Bonjour Jessica.
On le rappelle, les jeux d'évasion, c'est notre passion depuis 2016. Maintenant, on a fait on est rendu à 160 salles?
À peu près 190.
Waouh, ok, j'avais vraiment oublié de compter jusque-là. Et on le rappelle, les jeux d'évasion, généralement, c'est 60 minutes de pur plaisir, du moins c'est ce qu'on souhaite quand on va s'enfermer dans l'une de ces salles où vous devez accomplir une mission. Ça peut être s'évader de prison, éradiquer une pandémie avec des zombies qui rôdent tout autour de vous, ou encore voler une recette de sauce secrète aussi, ce qui m'est déjà arrivé à Paris en intégrant un certain restaurant. Bref, les missions sont plus farfelues que l'imagination des créateurs, et on les découvre à chaque fois dans cette émission à travers différentes entreprises de Québec, du Québec aussi. Et on n'est pas les seuls à avoir réalisé, joué tant de salles au Québec. On va découvrir toute une communauté d'accros aussi, notamment avec le groupe Accro de jeux d'évasion sur Facebook. On est rendu à plus de 1000 membres sur ce groupe où on échange trucs et astuces sur les jeux d'évasion et surtout les salles à ne pas manquer un peu partout au Québec, mais aussi même à l'étranger. On y fait de très très belles rencontres et l'émission d'aujourd'hui en sera un digne exemple. Comme je vous le disais, on va tenter de répondre à la question « Pourquoi les jeux d'évasion nous rendent-ils aussi accros ?» Parce que oui, on vous prévient, si vous n'avez pas encore joué à votre premier jeu, ça va créer une certaine dépendance. Et on va essayer de comprendre pourquoi avec nos invités aujourd'hui. Alors on accueille, attention c'est du sérieux, un psychologue pour commencer, Jean-Philippe Cochrane, qui lui-même a joué près d'une trentaine de salles depuis 2015 au Québec. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Également avec nous, David Boivin Lafleur, médecin gradué de psychiatrie de l'Université Laval en 2019. Lui aussi, il a joué près d'une trentaine de salles, mais lui seulement en l'année 2019. Bonjour.
Bonjour.
Et tu es aussi ambassadeur du fun pour une certaine entreprise à Québec.
Et oui, je suis ambassadeur du fun pour À Double Tour.
Puisque À Double Tour organise un concours depuis le début de l'année où vous pouvez gagner vos entrées pour aller jouer chez eux à vie. C'est d'ailleurs votre point commun avec notre troisième invité aujourd'hui avec qui on parle à distance. Il s'agit de Patrick Pilon, lui-même accro de jeux d'évasion. On va se pencher sur son cas. Il a joué plus d'une centaine de salles, autant au Québec, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Écosse, en Autriche, en Italie, en Hongrie. Il y a juste à Cuba où ils sont allés en voyage et ils n'en ont pas fait, mais ils s'étaient quand même apporté un jeu d'évasion en boîte style jeu de société. Bonjour Patrick.
Bonjour Jessica.
Tout un spécimen devant nous. Voilà. Patrick, raconte-nous un petit peu d'où te vient cette passion des jeux d'évasion. Ça remonte à quand?
Ça remonte à 2016. En fait, j'avais fait un premier jeu début 2016. Mais par la suite, la piqûre a vraiment embarqué quand j'ai commencé à faire des jeux avec ma blonde Catherine en fin 2016. Depuis ce temps-là, on en a fait... Une centaine, en fait, on fait notre centième ce jeudi, notre centième ensemble.
Ensemble, c'est ça. Toi, t'en as fait 103, 104, il me semble, puis centième avec ta blonde, donc.
Exactement, c'est ça.
Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu fais un jeu d'évasion?
C'est sûr que c'est l'aventure que ça apporte, c'est la découverte. C'est sûr qu'il y a une certaine gratification intellectuelle de faire des énigmes pour pouvoir se sauver. Et c'est vraiment l'intérêt principal.
Donc c'est pour ça que tu en fais autant aujourd'hui, mais on se dit quand même, après plus d'une centaine de salles, il y a peut-être une lassitude sur certaines choses, parce que tu as peut-être l'impression de répéter les mêmes actions. On parlait beaucoup dans cette émission depuis le début de la saison des principes de base de salles de jeux d'évasion qui est « j'ai un cadenas à 4 chiffres, donc il faut que je trouve un code à 4 chiffres pour débarrer le cadenas, par exemple ». Ça, c'est des actions qu'on répète souvent dans un jeu.
« J'ai un cadenas directionnel et j'ai une lampe UV ».
Voilà, d'où le nom de l'émission aussi. Donc, il y a quand même des actions répétitives. Toi, quel est ton plaisir après autant de salles de continuer d'en faire?
Ben, je dois dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions répétitives, mais c'est vraiment la base des jeux. Chaque salle qu'on a fait jusqu'à maintenant a toujours quelque chose de nouveau à nous apporter. Surtout au Québec, on est vraiment choyé par rapport à ça. Il y a vraiment une très, très grande variété d'énigmes et de types de scénarios, de types de décors à voir, vraiment même comparé au reste du monde, on est très, très bien situé pour les jeux d'évasion.
Si tu devais nous parler d'une salle marquante au Québec, ce serait laquelle?
Ben, je dirais qu'à Montréal, ben, à Laval, en fait, ce serait la Nuit du Loup et du Serpent de chez Codex. Ça, c'est vraiment un pur délice. C'est surtout la thématique qui est venue me chercher, le viking, du jamais vu. Puis côté énigme, côté décor, côté surprise aussi, c'était vraiment extraordinaire.
Je l'ai dit en présentation, tu as aussi fait beaucoup de jeux d'évasion à l'étranger lors de voyages. Je ne sais pas si le motif du voyage était d'aller faire des jeux d'évasion ou si tu as plutôt allié l'utile à l'agréable.
Ben, au début, oui. Le but du voyage, c'était d'aller, par exemple, quand on était en Hongrie, voilà, à Budapest, qui est un des créneaux des jeux d'évasion. Là, c'est là que ça a vraiment grandi un petit peu plus après le Japon. Fait qu'on voulait vraiment voir la ville où ça avait parti. Mais autrement, c'est sûr que on fait pas juste des jeux d'évasion dans le voyage, on va quand même voir le pays. Mais c'est un très grand incitatif.
Et s'il y avait un jeu d'évasion à l'étranger qui t'a marqué, ce serait où?
À Vienne. Le 100e jeu qu'on a fait séparément, en fait, ça s'appelle Going Underground, de Crime Runners. C'est le jeu le plus écœurant qu'on a fait à vie. Ça va être vraiment le jeu le plus écœurant qu'on va avoir fait dans les prochaines années, même jusqu'à temps qu'on trouve mieux. L'immersion totale, c'était de tout point de vue extraordinaire.
Donc c'était le décor, mais c'était aussi les énigmes en tant que telles.
Oui, les énigmes, le décor, l'immersion, les surprises qu'il y avait dans cette salle-là. On se sentait comme dans une aventure immersive, là, c'est au plus haut point.
C'était quoi la thématique?
En fait, on essayait de trouver, on pourrait dire des éclats de bombes, puis on allait en dessous de la terre. Puis, au tout début, on prenait un ascenseur, mais il y a certaines places où on peut se dire on a pris un faux ascenseur. Non, on prenait comme un vrai ascenseur, le sol vivrait, on voyait la salle bouger, mais en tout cas, c'est sûr que c'est tout trompe-l'œil. Il essaie de nous faire vivre cette immersion-là et c'était très, très bien réussi.
De toute façon, on ne veut pas tout savoir parce que si nous aussi, on va à Vienne, on veut la faire. C'est sûr que tu nous donnes envie, Patrick. Je terminerai en te demandant, parce qu'après, tu vas avoir l'analyse de nos psys autour de la table qui t'écoutent très attentivement comme spécimen aujourd'hui.
Ils prennent même des notes.
Ah ouais, c'est du sérieux. Toi, Patrick, quelles seraient tes qualités et tes défauts? Allez, ta plus grande qualité, ton plus grand défaut dans un jeu d'évasion?
Ma plus grande qualité, je pense que c'est d'être capable de trouver, de voir les choses où les autres les voient pas. Souvent, je vais être en train de faire un énigme puis je vais voir la solution avant même que les choses soient déplacées. C'est vraiment être capable de visualiser les choses. Puis, le plus gros défaut, c'est de pas essayer de placer les choses aux endroits où devraient aller puis tout le temps être en train de dire à ma blonde, ah non, ça se peut pas nécessairement, tu sais, ça n'a aucun sens. Finalement, après cette action-là, et ça marche. Donc, je dirais qu'on se complète bien pour ça.
C'est ça, c'est de trouver aussi des gens qui nous complètent bien dans l'équipe, alors, et tu as l'air d'avoir trouvé. Ben, merci, Patrick, pour ce témoignage. J'ai très, très hâte de savoir ce que nos psys en pensent. Donc, peut-être, David, première impression sur le cas de Patrick Pilon.
Moi, ce que je trouve très intéressant dans le cas de Patrick, c'est que qu'il réussisse encore à être surpris malgré la quantité faramineuse de salles qu'il a pu accomplir jusqu'à maintenant. Et je pense que ça sera évidemment discuté dans l'émission, mais c'est un des aspects qui amène cette passion à ne cesser de se renouveler à chaque salle, à chaque nouvelle salle, et qui permet d'avoir encore beaucoup de plaisir et de ne jamais épuiser, finalement, cet intérêt, cette passion-là.
Patrick, tu le vois comme ça, toi aussi, que tu as du plaisir quand même à chacune des salles, même si tu ne sais jamais à quoi t'attendre?
Ah, c'est ça le plaisir, en fait. Jamais savoir à quoi s'attendre.
Ça fait partie du jeu.
Oui.
Jean-Philippe, oui, toi, en tant que psychologue.
Ben moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se laisse encore émerveiller, qui rentre dans le scénario, donc qui se laisse prendre au jeu. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui doit faciliter, en fait, le plaisir qui vient avec ça. Parce que dans le fond, c'est comme toujours une nouvelle expérience, comme s'il vivait, en fait, une nouvelle expérience, une nouvelle vie. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très intéressant.
Patrick, qu'est-ce qui pourrait arrêter cette passion ou cette addiction? Est-ce que tu en as une idée?
Pour arrêter, c'est s'il n'y a plus de salles disponibles.
C'est vrai. C'est une raison très, très, très réaliste.
Mm-hmm. Le but, c'est de faire au moins une salle de chaque compagnie au Québec pour commencer. Et après ça, on va voir ce que ça nous apporte.
Moi, Patrick, j'aurais une question pour toi. Est-ce que, avec la quantité de salles que tu as fait jusqu'à maintenant, as-tu l'impression d'être plus exigeant envers les nouvelles salles que tu fais? As-tu l'impression que ton expérience, le fait d'en avoir vu plusieurs, d'avoir été émerveillé à différents moments par différentes salles, est-ce que tu as l'impression que ça te rend plus critique et que ça diminue peut-être ton plaisir pour des salles plus dites ordinaires ou plus d'entrée de gamme?
C'est vrai que oui, je deviens plus critique, mais tout de même, ça va pas réduire mon appréciation pour les autres salles. Je comprends que les budgets sont pas pareils partout. Toutes les salles sont capables d'émerveiller de leur propre façon. Les énigmes vont apporter quelque chose de différent. La façon d'apporter la thématique va apporter quelque chose de différent. Le jeu du maître du GM, du maître de jeu, va apporter quelque chose de différent. À chaque fois, c'est infini. Là. Donc, non, je pense pas que... Je pense pas que je vais trouver les salles qui vont être classées plus basses ou plutôt moins bonnes, mais plutôt différentes.
En tout cas, Patrick, on te souhaite d'avoir encore beaucoup d'émerveillement parce que, bon, en tout cas, il va y avoir un moment important, jeudi, à votre 100e salle avec ta partenaire de jeu préférée, de ce que j'ai compris, ta blonde qui t'accompagne dans chacune de tes aventures. Donc, on vous en souhaite encore plein d'autres. Merci beaucoup, Patrick Pilon, pour ton témoignage.
Merci à vous.
Patrick Pilon, donc accro de jeux d'évasion, plus de 100 salles réalisées au Québec et un peu partout à l'étranger. Bon, un peu partout à l'étranger. Il reste encore plein de pays, mais je veux dire, dans beaucoup de pays encore. Il est aussi administrateur, l'un des administrateurs du groupe accro de jeux d'évasion sur Facebook. Évidemment, le mot accro peut paraître peut-être un peu exagéré au départ, mais non, on voit que ça crée une véritable passion. On n'a pas parlé du budget non plus, mais c'est quand même une passion qui coûte cher aussi. Peut-être que ça fait partie des caractéristiques des addictions. On en parlera avec nos invités dans quelques instants. On continue en musique, toujours sur cette thématique. Voici un groupe français qui n'a pas hésité à écrire, alors pas sur la thématique des addictions des jeux d'évasion, mais sur les addictions en général. Voici Superbus. Addiction, Superbus, ça c'est KRL 89.1. Ben oui, parce qu'on parle de l'addiction au jeu d'évasion. Aujourd'hui, on vous parle de jeu d'évasion tout l'été dans cette émission Cadenas directionnels et lampes UV le mardi de 19h30 à 20h30. Merci de nous suivre. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter, notamment en balado-diffusion. Donc, on est vraiment ravis de vous éclairer sur cette industrie tellement passionnante au Québec et partout dans le monde. On vient de parler avec un accro de jeu d'évasion qui a joué plus de 100 salles à travers le Québec et même à l'étranger. Maintenant, on va s'intéresser, avant d'être accro, faut commencer par faire son premier jeu. Vous êtes peut-être plusieurs à nous écouter, vous n'avez encore jamais joué, vous dites, mais mon Dieu, comment je peux devenir accro à une telle activité? Être enfermé pendant 60 minutes, devoir sortir, devoir accomplir une mission imaginaire. On va vous expliquer un petit peu quelle qualité, quel type de joueur vous pouvez être dans ces jeux d'évasion, avec notre invité Jean-Philippe Cochrane, qui est psychologue et qui, pour nous, a dressé différents profils de joueurs dans ces jeux d'évasion. Alors Jean-Philippe, pas facile comme recherche, parce que dans la littérature scientifique notamment, il n'y a pas beaucoup de ressources pour le moment. Ça reste une industrie assez jeune.
Effectivement, je me suis beaucoup basé sur les modèles qui existent déjà, sur la personnalité des gens, sur le développement de compétences, des choses comme ça, et sur mon expérience personnelle, bien sûr, étant donné que j'en ai fait un peu. Mais la littérature scientifique était assez discrète dans le domaine.
Il y a de quoi écrire alors, ça laisse une brèche ouverte.
Oui, si un jour je décide pas de publier un livre.
Là-dessus. Alors, est-ce qu'on parle vraiment de qualité et de défaut dans un jeu d'évasion pour les joueurs?
Mais j'aime pas beaucoup le terme qualité ou défaut en général, parce que je trouve que c'est surtout des caractéristiques qu'on met sur un continuum, parce qu'il y a... Dans la vie en général, si on est trop ou pas assez de quelque chose, en général, ça va se manifester un peu sous la forme d'un défaut. L'exemple que je donne souvent à mes clients, c'est au niveau de la générosité, une personne qui est prête à tout donner ce qu'elle a, c'est autant un défaut que la personne qui garde tout pour elle. Donc, la qualité se trouve un peu dans le milieu, un peu à mi-chemin entre tout ça.
Ou l'équilibre, finalement.
Exactement, ça prend l'équilibre. Puis dans les caractéristiques que j'ai dressées un peu pour les jeux d'évasion, c'est la même chose. C'est une question d'équilibre encore là.
Alors, si on parle d'une... Alors, il faut quand même que je continue de l'appeler qualité ou pas?
caractéristique.
C'est bon.
Je pense que les gens vont comprendre que c'est... On va l'utiliser de façon interchangeable maintenant.
D'accord. Si on parle de la communication, ça, c'est essentiel pour réussir un jeu d'évasion.
Je pense que c'est la première qualité pour réussir un jeu d'évasion. T'sais, la communication étant la capacité à partager nos idées efficacement avec les autres personnes, c'est certain qu'il faut être un bon communicateur dans un jeu d'évasion, parce qu'on est tout le temps appelé à donner de l'information, à recevoir de l'information. Donc, il faut être communicateur autant dans le volet réceptif que dans le volet expressif. Faut aussi être capable, dans le fond, de s'adapter en communication avec nos coéquipiers. Certaines personnes, naturellement, vont beaucoup plus parler que d'autres. Donc, faut être capable de s'adapter à ces personnes-là et parfois peut-être de leur faire un petit signe de silence. Mais c'est vraiment central dans un jeu d'évasion. Ça serait impossible de réussir, selon moi, sans cette caractéristique-là. C'est impossible de tout savoir ce qu'il y a dans une pièce. Donc, c'est nécessaire qu'on communique entre nous, là.
Parce que pour remettre en contexte, quand vous entrez dans une pièce de jeu d'évasion, vous allez devoir la fouiller, vous allez devoir l'observer dans tous les recoins. Donc, dès qu'on trouve quelque chose, il faut informer son équipe. D'ailleurs, je pense que Patrick en parlait dans son témoignage. Il disait pas toujours ce qu'il trouvait, ou il pensait que c'était pas possible que ça soit ça, donc il le disait pas, et ça pouvait le nuire dans la réussite de certains jeux. Donc très très bon exercice pour communiquer. Et d'ailleurs, on peut faire le lien avec les entreprises qui utilisent le jeu d'évasion comme activité de renforcement d'équipe pour améliorer la communication notamment. Marc?
Oui, c'est ça, l'exemple le plus classique ou le plus facile à comprendre de ça, c'est si moi je trouve une clé, puis j'en parle pas à personne, puis toi t'as trouvé une boîte avec un cadenas, puis t'en parles pas à personne, puis tu cherches la clé pendant 30 minutes, puis moi, c'est moi qui l'ai dans mes poches, ben...
Vous pourrez pas faire le lien que ça va ensemble.
Ben c'est ça, si moi je dis pas, hey, regardez, j'ai trouvé une clé bleue, puis tu sais, hey cool, moi j'ai un cadenas bleu, ben on vient de régler le problème rapidement, mais si on s'en parle pas...
Et Jean-Philippe, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais aussi l'aspect de communication est excessivement important, mais il y a aussi la façon de communiquer, dépendamment avec quels gens on se trouve dans la pièce. C'est pas nécessairement avec les avec différentes personnes, on communiquera pas de la même façon tout le temps. Il y a comme un degré d'adaptation aussi et de travail sur la façon de transmettre l'information, parce qu'avec des gens on peut être plus franc, plus directif, avec d'autres gens un peu plus discret. On veut pas heurter personne quand on pense qu'on a une solution plus adéquate à une énigme qu'on vient de trouver. Ça nécessite quand même, c'est un bon défi en soi aussi, cette communication là.
Du tact et de la diplomatie.
Ben effectivement, puis je pense que c'est un prérequis dans tout en général. Puis en fait, c'est que tu me devances, parce que la deuxième caractéristique que j'avais recensée, c'est l'adaptativité. J'aurais dû dire la flexibilité, ça aurait été plus facile à prononcer. qui est en fait la capacité de s'adapter aux différentes épreuves qui sont présentées, mais aussi aux gens avec qui on collabore. Puis c'est exactement l'exemple que tu es en train de donner. On s'exprimera pas de la même façon avec tous les gens. On sait qu'il y a des gens qui ont un peu plus d'ego, donc peut-être que ces gens-là ne sont pas très favorables à recevoir un commentaire plus direct. Fait que des fois, faut passer un petit peu plus avec de l'emballage pour que ça puisse passer. Ça, c'est d'un point de vue communication en équipe, il faut s'adapter à l'autre, mais aussi le point de vue s'adapter aux épreuves qui nous sont présentées. Certaines personnes, des fois, figent et ne font que refaire la même chose de fois, en espérant le même résultat, alors que dans certains cas, ça ne fonctionne pas. On est peut-être mieux de changer les variables si on veut espérer un résultat différent. Puis je dis ça en toute humilité, parce qu'on l'a vécu ensemble pour la première fois hier, où justement, on aurait fait les mêmes manipulations à quelques reprises, en espérant des résultats différents, et finalement, c'était pas ça. Hein?
On s'est vraiment obstiné, parce que oui, pour l'anecdote, chers auditeurs, on est allé essayer un jeu d'évasion hier pour la première fois tous les quatre, Mordrakkar, dont on vous parlera un peu plus tard dans l'émission, donc c'était chez SOS Aventure. Effectivement, sur une énigme, on était persuadés d'avoir la bonne réponse, puis je pense qu'on s'obstinait à se dire c'est sûrement un bug technique, parce que c'était la première journée d'opération du jeu, mais on aurait mieux fait d'être humble à ce moment-là.
Finalement, c'était notre bug technique était dans notre tête. Puis effectivement, humble étant la troisième caractéristique, l'humilité. Donc, d'être conscient de nos forces et nos limites en tant que personne et en tant qu'équipier. Donc, justement, dans un but de collaboration, de travail d'équipe, mais c'est normal qu'on n'aille pas tous les mêmes forces. Puis c'est normal qu'on reçoive des commentaires aussi par rapport à nos forces, nos faiblesses, nos limites. Puis c'est correct de recevoir ces commentaires-là. Il faut pas se sentir trop attaqué face à ces limites-là. C'est normal, on en a, on est humain. Même si des fois on aimerait ça être plus qu'humain. Nécessairement, les gens qui ont un peu plus d'ego, ça risque de ressortir dans les défis d'évasion, ça risque que c'est des situations stressantes. Donc les gens sont plus susceptibles de voir ressortir les caractéristiques qu'ils aiment peut-être un peu moins d'eux-mêmes. Donc ça se peut qu'on vive certaines frustrations et que certaines personnes en vivent davantage que d'autres. Fait que c'est important aussi de faire attention, de ne pas viser la perfection. Parce que justement, c'est certain qu'on va ressortir frustré ou qu'on va avoir frustré l'ensemble de l'équipe.
Moi, mon humilité s'est éteinte depuis que je échoue à toutes les énigmes musicales. J'ai fait au moins 7 ou 8 ans de musique et à chaque fois, je suis persuadée que je vais la réussir. Exemple, l'énigme d'hier, une des énigmes d'hier. Voilà, j'étais persuadée que j'allais la réussir et non, j'échoue et je fais échouer mon équipe par la même occasion. Effectivement, collaboration néanmoins, ça est une bonne qualité aussi dans le jeu d'évasion.
C'est vraiment une qualité essentielle. Faut être capable de collaborer avec les autres. Faut pas penser qu'on sait tout. Faut se reposer sur les forces de tous et chacun. Si on arrive dans une pièce en se disant que ça va être notre moment de gloire et qu'on va tous réussir et qu'on va impressionner tout le monde dans l'équipe, clairement, on vient de passer à côté de quelque chose. Si les pièces étaient faites pour être faites seules, ça serait annoncé comme étant un jeu qu'on fait seul. C'est un jeu à plusieurs personnes. Donc, nécessairement, la collaboration va être essentielle. Personnellement, mon indice qui me prouve qu'on a eu une bonne collaboration quand je fais des jeux d'évasion en équipe, c'est qu'on ressort en se disant « Ben, je pense que j'ai rien fait dans la pièce. » Et quand tout le monde se dit qu'on n'a rien fait dans la pièce, on se dit « Ah, ben, ça veut dire qu'on a bien travaillé efficacement de façon équilibrée, parce que sinon, il y en aurait un qui aurait dit « Moi, je vous ai porté sur le dos. » Non, là, vraiment, on ressort avec ce feeling-là.
Puis, effectivement, Jean-Philippe, moi, je trouve ça intéressant comme caractéristique parce que, comme comme tu le disais, l'idée du travail d'équipe derrière le jeu d'évasion étant inévitable et même essentielle, puis faisant partie du plaisir qu'on peut y trouver, d'utiliser les forces de chacun pour compenser finalement les faiblesses individuelles afin que le groupe réussisse la tâche, est d'autant plus important d'être humble aussi, de reconnaître qu'on est peut-être moins habile sur certaines énigmes, sur certains styles d'énigmes, et que de passer la rondelle à l'autre permet des fois de mieux avancer.
Oui, effectivement, je pense que c'est essentiel qu'on puisse se passer la rondelle. Puis encore là, ce n'est pas un jeu d'ego, ce n'est pas une réussite individuelle, c'est une réussite d'équipe. Donc, ça sert pas à grand-chose, selon moi, bien sûr, de s'entêter dans quelque chose comme ça. On est aussi bien de reculer puis de dire « Ah, OK, next ».
Et il y a des salles qui reposent presque intégralement sur cette collaboration, que c'est juste impossible de faire tout seul physiquement, parce qu'il faut être plusieurs et qu'il faut plusieurs cerveaux aussi pour réfléchir. C'est très rare, les énigmes qu'on peut résoudre tout seul dans une salle, même une seule énigme.
Ça, il y en a quand même beaucoup que tu peux réussir tout seul.
Mais l'intégrale, c'est ça que je veux dire. L'intégrale de la salle, non?
Oui, non, ça, c'est sûr.
Il y a aussi les salles non linéaires qu'on voit de plus en plus apparaître, qui sont souvent de niveau de difficulté un peu plus avancé. Donc, après en avoir fait quelques-unes, on se rend rapidement compte qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui seraient impossibles à réaliser tout seul, que ce soit une impossibilité physique parce qu'il y a une manipulation synchronisée qui doit être faite, une impossibilité intellectuelle parce que ça demande trop d'éléments de réflexion, ça demande d'avoir observé l'entièreté de la salle, ce qui est à peu près impossible, là. Donc, oui, de plus en plus, la collaboration est mise à l'épreuve dans les salles plus avancées.
Jean-Philippe, on va finir sur une dernière caractéristique,
oui,
parce que c'est sûr qu'il y en aurait des nombreuses, et c'est pour ça qu'on aime les jeux d'évasion aussi. Mais selon toi, pour terminer, la plus importante?
Moi, j'irais avec la compatibilité, parce que c'est celle qui est la plus interreliée aux choses. Dans le fond, c'est toutes les équipes essayent d'avoir une bonne synergie ensemble. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement éliminer les joueurs qui sont présents dans l'équipe en se disant qu'ils ont des défauts fondamentaux qu'ils ne pourront jamais surmonter. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que si jamais vous sentez que la tension monte dans une équipe, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est un conseil de psy, retirez-vous de la situation, éloignez-vous de quelques pas. C'est toujours plus difficile d'insulter quelqu'un à distance que si on l'a encore dans notre visage, fait que ça peut faire une grande différence. Dans le fond, les gens sont des fois très peu conscients de leurs défauts et de leurs défis. Ça peut valoir la peine aussi de leur informer de façon très correcte, bien sûr, pour que eux aussi puissent en prendre conscience, puis peut-être des fois modifier certaines choses. Ça reste que je suis psychologue, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à s'améliorer. Ben, je pense que les jeux d'évasion sont une belle occasion aussi de s'améliorer.
Très bien, c'est bon de se le dire. Mais c'est vrai qu'avec Marc, on s'est réajusté plusieurs fois sur des choses qui nous dérangeaient chez l'un et l'autre pendant la période de jeu, comme moi aller dans la bulle de Marc alors qu'il est en train de réfléchir, ou moi, Marc, des façons de me parler où je l'ai trouvé un peu intense. Mais on se le dit après, puis ça va mieux. Donc, n'est-ce pas Marc?
Tout à fait, je me suis calmé un peu.
Et mutuellement, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe Cochrane, pour ces éclaircissements. On reviendra un peu plus en détail sur les personnalités qu'on retrouve dans les jeux d'évasion aussi. Mais d'ici là, on va vous parler de notre expérience chez Mordrakkar, un vol d'œufs de dragon. Écoutez, il n'y a que dans les jeux d'évasion qu'on peut faire ça, ou dans nos rêves. Bon, on l'a réalisé presque pour vrai hier. On vous en parle dans la suite de Cadenas Directionnels et l'Empuvée à CKRL 89.1.
Vous écoutez CKRL 89.1. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy,
Cinévoyage présente Guadeloupe, l'île papillon, Le dernier homme noir de San Francisco, Menteur, Le Roi Lion et Yesterday.
Et au Clap Loretteville,
Cinévoyage présente Polynésie française, Le dernier homme noir de San Francisco, Menteur, Le Roi Lion et Stubert.
Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma.
La terrasse de la Korrigan a fait peau neuve. Venez découvrir la version améliorée de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En journée, pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la Korrigan est un incontournable. En famille ou entre amis, venez déguster une bonne bière artisanale et manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux, tout ça au soleil et entouré de verdure. La Korrigan, 380 rue Dorchester, accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph.
Thank you.
Vous êtes toujours dans Cadenas Directionnel et Lampe UV à CKRL 89.1. Jessica Leb avec vous, avec mes invités aujourd'hui. On parle de pourquoi les jeux d'évasion nous rendent-ils aussi accros, puisque c'est de jeux d'évasion dont on vous parle dans cette émission. Parce que oui, dès que vous allez en faire un, vous allez vouloir en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis vous arrêterez plus. On préfère vous prévenir d'avance. Puis on vous aide pas avec cette émission parce qu'on espère vous inciter à faire votre première salle à Québec dans l'une des six entreprises existantes, ou encore ailleurs aussi. Dans quelques instants, on vous parle justement d'une toute nouvelle salle qui vient d'ouvrir à Québec, Mordrakkar, nouveau jeu ouvert chez SOS Aventure et disponible depuis hier. On va en parler avec le concepteur de cette salle, Rémi Barbeau. Mais avant cela, pour vous faire comprendre un petit peu à quoi ressemble notre addiction aux jeux d'évasion, ça ressemble un petit peu à cette addiction qu'a Bleu Jeans Bleu avec les patates frites.
J'ai mangé trop de patates frites, j'ai vu le fond du tunnel. Tout est arrivé si vite, et maintenant j'ai des regrets. Quand mon corps m'envoie des signes, je ne l'écoute jamais. La peau comme un élastique, un grand écart de l'abdomen. J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop, 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 trop de patates frites. J'aimerais qu'elle m'explique pourquoi elles me font cet effet. Accro comme un alcoolique, assez croustillant, bâtonnet. Chaque fois que je le fais, je deviens un peu plus paquet, bien paquet. J'ai mangé trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop de patates, trop de patates, trop de patates frites. Trop, 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 trop de patates frites. Olé!
Et oui, c'est là-dedans qu'on se reconnaît. Manger trop de patates frites, c'est comme beaucoup trop aimer les jeux d'évasion. On vient d'entendre Bleu Jeans Bleu avec cette chanson mythique. J'ai mangé trop de patates frites. Vous êtes dans Cadenas Directionnel et Lampe UV. Oui, on n'aurait jamais pensé diffuser cette chanson, mais que voulez-vous? Tous les prétextes sont bons pour écouter Bleu Jeans Bleu. On vous parle de jeux d'évasion à Québec, au Québec. On a eu la chance, on est vraiment content d'essayer une toute nouvelle salle qui a ouvert à Québec hier. Alors, si ça a ouvert hier, évidemment, hier soir, on y était avec mon équipe, donc avec mon acolyte Marc Raymond, mais aussi avec nos deux invités du jour, Jean-Philippe Cochrane, psychologue, que vous avez entendu nous parler des caractéristiques et des qualités pour bien réussir son jeu d'évasion, puis David Boivin-Lafleur, médecin, gradué de psychiatrie de l'Université Laval cette année, qui nous parlera, lui, des fameuses addictions au jeu d'évasion, comment on en arrive là. Alors, on est allés tous les quatre essayer la toute nouvelle salle, Mordrakkar, qui a ouvert chez SOS Aventure. On en parle tout de suite avec le concepteur de cette salle et propriétaire de SOS Aventure, Rémi Barbeau. Bonjour Rémi.
Bonjour Jessica.
Très contente de te reparler. On t'avait déjà reçu à l'émission en début de saison pour nous parler de SOS Aventure, qui est d'abord une entreprise de jeux d'évasion qui a ouvert à Saint-Jérôme et un an plus tard à Québec. Parle-nous un petit peu de cette inspiration pour Mordrakkar, parce que là, il faut qu'on aille voler un œuf de dragon.
Oui, exceptionnellement, nous, on a un monde fantastique, on aime ça, les jeux fantastiques, on a une île au trésor, on a des sorcières, Et le monde médiéval, c'est quelque chose qui nous interpellait beaucoup, premièrement. Bon, on a beaucoup d'employés qui sont animateurs, ils ont fait des GN, donc et c'est eux qui nous fournissent beaucoup d'informations, beaucoup de d'idées. Donc, à un moment donné, les jeux, un jeu sur le thème médiéval était vraiment d'appoint pour nous. Donc, l'idée est partie de là, et ensuite l'histoire, on a commencé à brainstormer. On s'est dit les dragons, les œufs, les histoires comme ça, qu'est-ce qui nous interpelle le plus, le roi, et c'est de là que l'idée a commencé et que elle s'est devenue qu'est-ce que c'est devenu.
Donc nous, on est appelés pour sauver cette œuf de dragon qui a été volée par nul autre que le roi Justin. On se retrouve dans cet univers médiéval, comme tu le disais, l'univers de la forêt, de la nature aussi. On sent que ça va mal pour l'œuf du dragon. Mais je vais demander tout de suite à mes invités, comment avez-vous vécu cette expérience? C'est vrai que le thème médiéval est encore rare dans le monde des jeux d'évasion au Québec. David?
Pour moi, ça semblait être un thème naturel quand on parle de jeux d'évasion. Et effectivement, j'étais surpris de savoir qu'il n'y en a pas tant que ça. Des salles qui utilisent ce thème-là, alors que qui dit jeu d'évasion dit jeu immersif, dit à la limite jeu de rôle. Hein. Je trouve ça intéressant que Rémi parle de l'inspiration des grandeurs nature notamment. Moi, je trouvais que le thème était très à propos et l'utilisation des décors et du style d'énigme aussi rajoutait un certain sentiment de magie, comme on retrouve dans les univers fantastiques, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou d'autres. Les décors étaient très développés aussi, étaient magnifiques et permettaient de rajouter à cette immersion-là. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans l'expérience hier.
Le stress aussi, moi je trouve, quand je l'annonce comme ça dans l'émission, faut qu'on vole un œuf de dragon, ça a l'air un peu dérisoire comme ça ou un peu infantile, mais sincèrement sur ce que je pensais être la fin du jeu, mais en fait il nous restait quand même pas mal de temps. J'ai vraiment eu l'impression que l'œuf du dragon allait nous glisser sous les doigts et qu'on allait pas réussir. Bon, nous l'avons heureusement sauvé, mais bravo aussi pour l'ambiance sonore. Je suis toujours la seule à le relever, quoique on était plusieurs à le dire hier, mais je dis ça par rapport à Marc. Mais l'ambiance sonore qui joue beaucoup sur l'intensité de la salle, hein. On sent que plus on avance, plus les secondes sont comptées pour sauver cette œuf de dragon. Donc bravo pour ça, parce que je sais que c'est un de vos employés qui travaillait sur l'ambiance sonore.
C'est ça, exactement. C'est un de nos employés qui vient du monde du GN, qui s'est porté volontaire pour amener notre âme sonore à un second niveau, là.
Vous allez entendre les flammes. C'est le seul indice que je peux vous dire. Comme il faut le sauver de l'œuf des flammes aussi, vous allez les entendre. C'est vraiment très, très réussi. D'autres impressions parmi les invités? Marc, as-tu quelque chose à ajouter?
Très belle amélioration là, dans la conception des décors. On sent que la technique est vraiment plus aboutie. C'est vraiment une belle step plus haut là, que pour les autres salles. Donc, félicitations.
Merci, merci. On travaille très fort là-dessus pour amener cette deuxième génération de qualité depuis notre... Ça va faire 2 ans bientôt qu'on tourne, donc on a beaucoup appris, on fait beaucoup de nouvelles choses.
Rémi, en même temps qu'on te parle, on aimerait te parler de notre expérience aussi à travers nos profils de joueurs, parce que toi-même, tu observes beaucoup de joueurs à SOS Aventure pour voir évidemment comment ça se passe dans les salles, observer des comportements humains. Je pense que vous avez le meilleur métier pour ça aussi, hein?
Exactement, oui.
Alors peut-être autour de la table, faisons le tour. David, toi, tu serais quel profil de joueur? Parce que Jean-Philippe nous a concocté aussi cette partie-là sur des profils de joueurs qu'on retrouve dans les jeux d'évasion. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans les profils qu'on cite. Alors toi, tu serais plutôt quoi, David?
Moi, je me reconnais beaucoup dans le ramasseur d'indices. Autant hier, mais encore plus vrai lors de mes autres salles, j'ai tendance à fouiller, observer et ramasser tout ce qui se détache des murs, du sol, et à essayer de mettre ensemble ce qui me paraît aller ensemble. Et même parfois, lorsqu'on est dans une salle, par exemple, qu'il reste une ou deux énigmes à travailler, que le reste du groupe est en train de processer, moi, j'ai tendance à retourner dans les salles antérieures et faire un peu le ménage pour voir s'il reste des choses qui auraient pu être oubliées, qui auraient pu ne pas être utilisées, et ramener ça à l'équipe dans la salle active, finalement.
Et je me souviens très bien, quand il est retourné, David, je me suis dit « Non, mais ça sert à rien, il n'y a plus rien dans cette salle-là ». Je dirais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je me suis trouvée un peu bête de me faire cette réflexion par la suite. Jean-Philippe, quelque chose à ajouter sur le ramasseur d'indices, très important, bien sûr.
Mais non, je pense que ça a été très, très bien expliqué par David. Puis c'est un rôle qui est essentiel dans beaucoup de jeux d'évasion parce qu'il y a souvent beaucoup d'informations dans les décors, dans les meubles, parfois qu'il faut démonter même quasiment. Donc non, c'est un rôle qui est absolument primordial, sinon on passe à côté d'une foule d'informations.
Rémi, est-ce que tu reconnais ce joueur dans une équipe qui est seul contre tous à voilà, vouloir retourner par exemple dans la salle précédente ou être un peu obsessif avec ça?
C'est quelque chose qu'on voit souvent. Je dirais même que cette personne-là, des fois, ne s'affirme peut-être pas assez. Donc, par exemple, à la fin du jeu, lorsqu'on explique ce qui reste aux équipes qui n'ont pas réussi, c'est pas commun d'entendre un joueur dire « Ah, j'y avais pensé, je l'avais dit, personne n'a voulu aller voir avec moi. » Donc, c'est quand même quelque chose qu'on entend de, souvent, qu'il y ait au moins quelqu'un dans l'équipe qui avait eu l'idée, là.
Marc, qui es-tu dans ces profils de joueurs?
Moi, je trouve que ça sonne super bien. Je serais un aventurier.
Ouais, c'est ouais, le meilleur ouais. de tous, quoi.
Ben oui, ça a l'air sexy.
Donc, qu'est-ce que l'aventurier, Jean-Philippe?
C'est la personne qui amène un peu plus l'énergie au groupe. C'est la personne qui est tout le temps volontaire pour aller faire toutes les aventures, les passages étroits, être enfermé dans le noir, être menotté, peu importe. C'est la personne qui va dire « Oui, je vais y aller, il n'y a pas de problème. » Ou la personne qui va dire en fait, qui va pas le dire, qui va juste le faire. fait que c'est vraiment le casse-cou de l'équipe, celui qui affronte le danger puis qui va pas se gêner à crier si jamais il fait face à quelque chose d'épeurant.
Et j'avoue que c'est toujours très utile dans mon équipe.
Mais je me retiens aussi parce que oui, je veux toujours aller de l'avant, je veux toujours me tirer dans le premier tunnel, le premier truc, mais j'essaie d'en laisser aux autres aussi, donc je sais que je suis comme ça, fait que je prends un peu de recul pour que tout le reste de l'équipe puisse avoir ce plaisir-là aussi.
Rémi, j'imagine qu'il y a des équipes où il n'y a pas d'aventurier.
Oui, ça arrive. Alors, on doit, en tant que maître de jeu, agir en tant qu'aventurier pour eux et les amener à aller voir dans des zones qu'ils n'auraient pas pensé par eux-mêmes regarder. Je dirais que c'est peut-être plus pour les équipes dont c'est la première expérience ou les équipes familiales, par exemple, qui des fois savent pas vraiment à quoi s'attendre. Récemment, on doit agir à cette équipe-là, vous dire... soyez curieux, regardez dans quel coin on leur envoie des indices un peu plus, comment dire, précis pour justement les pousser à aller voir plus loin.
Mm-hmm. Et le maître de jeu peut aussi adapter la situation s'il voit que il n'y a pas vraiment un aventurier dans l'âme, dans l'équipe. J'ai demandé à Marc de trouver mon profil pour voir s'il me connaissait bien, donc j'ai très hâte d'entendre.
On va y aller avec le mode solution.
Oh!
Dans le fond, c'est la personne qui se met en organisation, qui va gérer les autres, qui va réfléchir à toutes les avenues possibles, qui va faire circuler l'information entre les gens. Donc, c'est vraiment le leader de l'équipe, c'est celui qui dirige. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il soit un dictateur non plus, parce que sinon, il va avoir une révolte sur les bras. Donc, ça prend quelqu'un qui est capable de faire preuve d'écoute puis qui est capable de rassembler l'information et de la faire vraiment bien circuler, diffuser.
Wow! Merci Marc. Finalement, je pense que c'est lui le meilleur. Rémi, mode solution aussi, on est mal s'il n'y en a aucun dans l'équipe. Est-ce que ça peut arriver?
Oui, ça arrive, mais encore là, je crois que c'est vraiment la façon que les joueurs sont préparés avant de rentrer. C'est de poser des questions aussi. Nous notre objectif en tant que maître de jeu, c'est de s'assurer qu'ils ont tous les outils en main. Pour commencer, alors des fois, on va volontairement dire « OK, c'est qui le leader ici? Qui fait telle chose? » On va leur redonner des trucs. Parfois, on sait que dans certaines salles, justement, il y a des petites subtilités. Donc, on veut les aiguiller indirectement sans donner la réponse. Donc, on veut les, en le terme anglophone, les « primer », dans le fond, les créer l'engouement nécessaire pour qu'ils rentrent en force et avoir une personne ressource qui va pouvoir, justement, baliser le tout, là.
Donc un leader insoupçonné, mais qu'on va réveiller un peu pour qu'il puisse prendre le lead de l'équipe, finalement.
Exactement.
Il y a un dernier profil qu'on aimerait aborder très rapidement, c'est le fameux casse-tête, pardon, pas casquette. Jean-Philippe, es-tu ce casse-tête?
Malheureusement, non, je suis un aventurier.
Toi aussi?
Mais pour les biens de la cause, je peux dire que oui. Mais en fait, non, c'est la personne qui est capable de comprendre très rapidement les codes en quelques secondes. Dans mon équipe, moi, c'est mon ami Vincent qui est toujours capable de comprendre un code en 30 secondes, alors que ça prendrait une demi-heure pour être capable de le faire normalement, si on était des êtres humains normaux. c'est ça, c'est vraiment les gens hyper persévérants à la tâche, puis qui vont travailler très, très fort de la logique.
Le côté plus rationnel de l'équipe, exact. Alors. Très bien. Ben alors, on va rappeler, si vous aussi voulez essayer Mordrakkar, vous plongez dans le Moyen-Âge et l'univers des dragons, c'est chez SOS Aventure. La salle est ouverte depuis hier. On va pouvoir y jouer, j'allais dire tout l'été, mais jusqu'à la nuit des temps, là, Rémi.
Pour un bon moment.
On rappelle, pour réserver, c'est sur votre site internet sosaventure@pluriel.ca. Vous êtes situé au 2095 rue Franck Carrel dans Sainte-Foy, si on veut venir vous voir. Vous êtes ouvert tous les jours cet été?
Exactement, tous les jours.
Merci beaucoup, Rémi Barbeau.
Ça fait plaisir, merci beaucoup à vous.
Propriétaire de SOS Aventure à Québec et à Saint-Jérôme. C'est pour ça qu'on lui parle à distance, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas à Québec. On va continuer, alors on rentre dans le vif du sujet, là, les addictions, dans quelques instants. Petite pause musicale avec un groupe qui porte déjà le nom de l'addiction dans son nom, Jane's Addiction, avec Jane Says. Il y a encore eu de la recherche musicale pour cette émission, je peux vous le dire. On parle d'addiction au jeu d'évasion pour cadenas directionnels et lampes UV jusqu'à 20h30 sur les ondes de CKRL. Parce que oui, dès que vous aurez fait votre premier jeu d'évasion, c'est possible que vous ayez envie d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis peut-être une centaine de plus. On en parle avec l'un de nos invités, David Boivin-Lafleur, médecin gradué de psychiatrie de l'Université Laval, qui nous parle des addictions. Alors sur les jeux d'évasion particulièrement, qu'est-ce qui fait que ça nous rend accro? Et là, encore une fois, il y a très peu d'articles sur le sujet, David.
En fait, à peu près pas qui parle spécifiquement du caractère addictif de la chose ou du caractère stimulant derrière le jeu d'évasion. Par contre, c'est sûr qu'on peut réussir à réfléchir à ce concept-là en se référant à des bases qui concernent toutes les sciences de l'addiction puis la recherche sur l'addiction. D'abord, ça prend quelque chose qui génère un certain plaisir, hein, évidemment, et le jeu d'évasion est une activité de choix pour générer un plaisir, puis un plaisir qui est souvent très intense de par plusieurs de ses caractéristiques. Je l'ai scindé un peu en deux parties pour parler de cette passion-là. Il y a d'abord ce qui nous attire, puis après ça, ce qui nous ramène. Ce qui nous attire dans les jeux d'évasion, puis ce qu'on essaie d'aller rechercher au fil du temps, c'est d'abord et avant tout du plaisir. C'est foncièrement plaisant de jouer un jeu d'évasion. C'est plaisant parce que c'est d'abord un jeu. C'est très ludique. Ça permet de vivre des aventures qu'on pourrait pas vivre ailleurs, notamment là, si on fait le pont avec Mordrakkar, sauver un œuf de dragon, je pense pas pouvoir faire ça dans aucun autre contexte. Et ça permet de vivre des aventures qui sont concrètes aussi. C'est-à-dire qu'on va manipuler des choses, on va toucher avec nos mains, on va voir avec nos yeux, on va parfois sentir avec notre nez. Et ça va nous imprégner finalement de souvenirs qui vont rendre l'expérience agréable et qui vont nous donner envie de la répéter, bien évidemment. Également, c'est une façon, de par son caractère concret et très immersif, de s'évader du quotidien. Et là, vous me pardonnerez le jeu de mots, parce que au-delà du fait qu'on va littéralement essayer de s'évader de certaines pièces et de certaines salles, on peut aussi complètement décrocher de notre vie quotidienne. Par exemple, le fait de ne pas que plusieurs salles refusent qu'on amène nos téléphones cellulaires, le 60 minutes va être consacré uniquement à la tâche et au jeu. Ce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire dans nos vies modernes. Ensuite de ça, ça va solliciter des différentes tâches, un peu comme Patrick le disait tantôt, et différentes facultés qui sont intéressantes à utiliser, notamment le fait qu'on va vivre un défi intellectuel et parfois même physique face au jeu d'évasion, face au scénario dans lequel on est. On va devoir résoudre des problèmes, ce qui va nous amener à essayer de se dépasser, de s'améliorer et d'accomplir finalement un but et une tâche qui est circonscrite. Le fait aussi de répéter l'expérience nous amène à nous améliorer, à développer notre mémoire, à se souvenir d'un style d'énigme qu'on aurait peut-être déjà vu et qui va faire que la deuxième fois va peut-être être plus facile. Ce n'est pas toujours le cas parce que des fois on se trompe et on pense qu'on reconnaît quelque chose alors qu'il y avait une petite twist qui fait que c'était différent, mais qui fait que on a le sentiment qu'on progresse au fur et à mesure de nos salles.
On développe des réflexes, des mécanismes, autant soi-même qu'avec l'équipe aussi si on joue, on rejoue avec les mêmes personnes. Une organisation aussi.
Effectivement, et le caractère social aussi, un peu, tantôt on faisait le pont avec la communication, qui est une des qualités probablement primordiales d'une équipe et d'un joueur de jeu d'évasion. Le fait de développer un sentiment d'appartenance à un groupe, ça peut être la même équipe avec lequel on joue, ça peut être aussi via le groupe des accros où il y a un esprit de communauté qui fait qu'on peut partager ce plaisir-là, on peut partager le plaisir qu'on a eu dans une salle ou dans une autre salle, on peut débriefer et continuer de parler de la salle et de ce qu'on a vécu et de comment on s'est senti, de la surprise qu'on a eue quand tel élément est apparu ou telle porte s'est ouverte, qui renforce aussi l'idée que c'était plaisant comme activité.
Oui, souvent, on va même parler de la salle plus longtemps que la durée du jeu lui-même, après avoir fait un jeu.
Effectivement, et je pense que ça transcrit comment c'est très fort ce qui se passe dans le jeu, mais aussi comment est-ce qu'on souhaiterait étirer le plaisir. Lorsque la salle se termine, c'est une situation qui est toujours un peu stressante. Par contre, on canalise notre stress à essayer d'avancer, de progresser, de résoudre des choses, de débloquer des portes, etc. Et qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, il y a un soulagement, il y a une petite drop d'adrénaline, un petit crash d'adrénaline, une petite sécrétion d'endorphine aussi, qui fait qu'on c'est terminé. Bon, parfois c'est dans l'échec que ça se termine, donc au bout des 60 minutes, au moins on se dit que c'est terminé, qu'on a pu à se creuser les méninges. Il peut s'en suivre une certaine déception parfois chez certains, mais il y a toujours des éléments qui vont nous avoir stimulés, qui vont nous donner le goût d'y retourner. Et quand on réussit une épreuve difficile, une salle difficile, qu'on réussit à débloquer le dernier cadenas et à ouvrir la dernière porte, il y a un grand sentiment d'accomplissement d'avoir réussi à battre le jeu, entre guillemets, et de s'être complètement dépassé, d'avoir utilisé toutes ses forces dans le jeu.
Et quand aussi, on l'a pas réussi, mais à quelques secondes près, cette adrénaline qui est en montée et qui finalement retombe, effectivement, on reconnaît tout ça à la fin d'un jeu, surtout quand on est allé au bout des 60 minutes, effectivement.
Et un autre aspect aussi, c'est que plus on en fait, plus on développe un esprit critique, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître certains mécanismes. Alors, les décors qui continuent de nous émerveiller, un certain retour à une forme d'enfance où on se laisse imprégner par l'ambiance dans laquelle on est, mais aussi, à force de faire des salles, ben on reconnaît qu'il y a certains types de technologies, certains types de cadenas qui vont référer à un type d'indice précis et qui nous amènent à être un peu plus habile et à des fois voir venir qu'est-ce qui s'en vient. Et la beauté, je pense, des jeux d'évasion qui rendent ça un peu comme Patrick le disait tantôt, même après plusieurs salles, on finit toujours par être surpris. Il y a toujours un élément surprenant qui va venir nous déculoter, qui va venir nous prendre dans le détour, qu'on n'aura pas vu venir, même si on pense qu'on comprend comment ça fonctionne, et qui va nous donner envie de poursuivre et de répéter à nouveau l'expérience. En deuxième volet, il y a tous les aspects qui créent le désir de revenir. Et là, on parle plus du côté vraiment, là, la première étape, c'était plus les aspects de passion, et maintenant le côté un peu plus accro slash dépendance slash addiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de cas répertorié de gens dépendants qui avaient des problèmes liés à l'usage de jeux d'évasion. Toutefois, il y a certaines caractéristiques dans le jeu d'évasion dans lesquelles les joueurs pourront se reconnaître. D'abord, c'est un plaisir qui est intense. C'est un plaisir qui est intense, qui est d'une courte durée, qui dure au maximum 60 minutes, parfois plus court quand on réussit la salle ou quand on fait un jeu éphémère, et qu'on va rechercher à nouveau. Et il y a peu de choses qui vont réussir à recréer ce plaisir-là que d'aller faire une autre salle, de revivre une surprise, de revivre l'expérience d'aller manipuler des cadenas.
Mais c'est juste que un scénario, par exemple, ne peut pas se répéter deux fois. Donc, c'est aussi ce qu'on va chercher en faisant autant d'autres scénarios. On approche déjà de la fin de l'émission. Je sais que on n'a pas développé le côté addictif, etc. Mais je pense qu'on peut inviter les auditeurs à poursuivre la discussion sur le groupe, les accros de jeux d'évasion notamment, mais aussi sur la page Facebook des Captivés. On aura certainement l'occasion peut-être d'en reparler plus longuement une prochaine fois, David, mais quoi qu'il en soit, conclusion sur cette addiction, très rapide.
Moi, je dirais surtout aux gens de budgéter les moyens financiers qu'ils comptent utiliser, parce que ça peut coûter cher, et si on oublie le montant que ça coûte, on pourrait s'y perdre, et de ne pas oublier que ça reste d'abord et avant tout un jeu. Si on est là pour le plaisir, et si on y va pour d'autres raisons que ça, peut-être se poser des questions sur ce qu'on est en train de décider.
Mais oui, parce que comme toute passion, ça peut revenir cher. C'est une salle, c'est à peu près $30 en moyenne de budget par salle, par personne, donc ça peut monter très très vite. Merci beaucoup à nos invités, David Boivin-Lafleur, médecin gradué de psychiatrie de l'Université Laval, merci beaucoup. Jean-Philippe Cochrane, également psychologue, merci. Et Marc Raymond, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Puis tu me dis pas merci.
Merci Marc. Yes. L'aventurier. Cadenas directionnel et lampe UV revient la semaine prochaine avec un tout nouveau thème. On vous l'annoncera aussi sur Facebook. C'était Jessica Leb avec vous dans quelques instants. Vous retrouvez Chucky McDonald pour La Loi du Rock. Bonne soirée sur les ondes de CKRL 89.1.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.